Club des poètes et vive la poésie.
C'était le 9 avril 2021, c'était le bicentenaire, le 200e anniversaire de Charles Baudelaire, et je lui avais consacré sur Facebook, dans ce qu'on appelle sur Facebook un live, c'est-à-dire un enregistrement en direct, une émission qui durait presque 3 heures pour explorer un peu son œuvre et sa vie. Je vais vous en faire écouter maintenant quelques extraits. Il y a des enregistrements qui sont plus ou moins de bonne qualité, selon ce que j'avais à ma disposition. Mais vous allez voir, il y a quelques pépites, je crois. Cette émission donnera lieu, je pense, à plusieurs suites, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'avais fait cette émission en direct, elle avait duré 3 heures, donc j'aurai d'autres choses à vous faire écouter. On commence avec notre amie Orana, qui est une amie comédienne et modèle, et dont j'ai pris quelques mots qu'elle avait mis sur une vidéo pour, en quelque sorte, illustrer le désir de Baudelaire d'échapper à la grisaille du quotidien pour se jeter vers les beautés de l'idéal.
Et j'ai envie de jouer parce que pour moi, tout ce qui permet de quitter la réalité, en fait, j'ai besoin de ce qui me permet de quitter la réalité. Et du coup, j'ai besoin de jouer. Vraiment. Non pas que la réalité ne me convienne pas, mais elle m'ennuie. C'est tout.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer mourir au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés pour mon esprit en les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté.
Alors ce soir, bien sûr, vous le savez, c'est un hommage à Charles Baudelaire. Charles Baudelaire qui fut extrêmement malmené et mal considéré souvent durant sa vie, qui fut même condamné pour outrage à la morale publique et blasphème, mais qui cependant, on peut dire, c'est pour ça que j'ai donné ce titre-là à cette soirée, a été d'une certaine manière condamné par, à la postérité, puisque d'ailleurs cette condamnation pénale qui lui a obligé à retirer un certain nombre de poèmes des Fleurs du Mal, son recueil le plus connu, eh bien, c'est ce qui lui a donné, paraît-il, en premier lieu, sa notoriété. Il était un poète connu des poètes, comme c'est souvent le cas. Il n'était pas connu du public. Et le fait qu'il y ait eu, comme cela, cette cabale autour de lui, et puis cette accusation, et ensuite cette condamnation, qui l'a néanmoins beaucoup affecté. Il a été condamné, je crois, à une peine de 300 francs, ce qui était beaucoup pour l'époque. Et puis après, ça a été réduit à 50 francs à cause de l'intervention, je crois, de l'impératrice Eugénie. Eh bien, quoi qu'il en soit, lui-même se sentait humilié, se sentait blessé par cela, mais c'est à cela en même temps qu'il doit beaucoup de sa notoriété. Alors Baudelaire, bien sûr, c'est un poète sulfureux, c'est un poète aussi adulé, bien sûr, parce que c'est quand on demande souvent aux amis, ou au public, au club des poètes, quel est leur poète préféré, c'est souvent le nom qui vient en premier, c'est Charles Baudelaire, ce qui est assez étonnant d'une certaine manière, parce que c'est un poète extrêmement sombre, extrêmement, on pourrait presque dire dépressif, qui oscille entre le spleen et l'idéal, son amour de l'idéal, son amour d'une beauté qu'il n'arrive pas à trouver sur Terre, et bien ça lui fait, en quelque sorte, ça le fait tomber dans des abîmes de dépression. Alors on va commencer par écouter le premier poème des Fleurs du Mal. C'est une amie qui est institutrice, qui s'appelle Agathe, et qui enseigne dans une banlieue difficile, comme on dit, et qui essaie d'apporter comme ça à des jeunes gens qui sont plutôt dans des situations précaires, et qui n'ont pas forcément tous accès à la culture, qui se bat constamment, quotidiennement, pour essayer de leur faire découvrir les plus belles choses de notre culture. Et là, elle interprète pour nous ce poème très sombre, très, on pourrait dire, pessimiste sur la condition humaine de Baudelaire, et qui s'intitule « Au lecteur ».
Au lecteur. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps. Et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leurs vermines. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre, qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin, que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serré, fourmillant comme un million d'helminthes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons, et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, fleuve invisible avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants desseins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres hurlants, glapissants, grognant, rampant, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde, quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris. Et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son houka, Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère.
Voilà, c'était donc notre amie Agathe, et je m'apercevais en l'écoutant que pour introduire cette émission, j'ai même pas dit ce que vous avez entendu au début en générique. Alors ce que je veux vous dire, c'est que le poème qu'on a entendu, bien sûr, c'est l'invitation au voyage de Charles Baudelaire, extrait des Fleurs du Mal, et que cette invitation au voyage, elle était chantée donc par mon ami Benoît Desrats. Voilà. Alors là, on a écouté Agathe qui disait au lecteur. On va passer par un autre poème des Fleurs du Mal, interprété par ma compagne Yasmine. Et ce poème, il faut le goûter avec d'autant plus d'attention que c'est un des poèmes, comment dirais-je, où Baudelaire manifeste son intérêt pour autrui, son amour des autres et sa compassion, il faut le dire. Et vous savez, c'est pas si fréquent chez Baudelaire, qui avait tendance à se dissimuler sous une carapace d'ironie et de causticité. Alors que j'ai écouté tout à l'heure, pour préparer aussi cette émission, j'ai écouté sa correspondance quand il était tout enfant, quand il écrivait à sa maman, qu'il avait été mis au collège de Lyon d'abord, et donc il était en pension, il était séparé de sa mère et de son beau-père, pour qui, semble-t-il, dans ses correspondances en tout cas, il semblait avoir une grande sympathie. Ça a changé, semble-t-il, à l'adolescence, mais quand il était petit, il avait beaucoup de sympathie pour lui, et il écrit des lettres très émouvantes et à sa maman, où on voit que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible.
Renvoyé du collège, Charles est confié à un répétiteur, le futur aliéniste Charles Lassègue, qui vit chez ses parents. Et Charles écrit à sa mère:
comme c'est différent d'être chez des étrangers. Et ce ne sont pas précisément tes caresses et nourrir que je regrette. C'est je ne sais quoi qui fait que notre mère nous paraît toujours la meilleure des femmes. Que ses qualités nous conviennent mieux que les qualités des autres femmes. Qu'il y a un tel accord entre une mère et son fils. Ils vivent si bien l'un à côté de l'autre. De sorte que ma foi, depuis que je suis chez Monsieur Lassègue, je suis mal à mon aise. Je ne veux pas que tu croies que c'est mon amour-propre vexé, parce que Monsieur Lassègue m'a constamment persécuté, et que Madame Lassègue s'en est aussi un peu mêlée. Quant à cela, je l'en remercie de tout mon cœur. C'est bien une preuve de sa bienveillance. Cela me forme, j'en suis content. Aussi n'est-ce point là ce qui me fatigue. C'est qu'il me manque là ce que j'aime. Un esprit fait comme je l'aime, celui de ma mère ou celui de mon ami M. Aupic. Certes, M. Lassègue, certes, sa mère aussi sont ornées de toutes sortes de belles qualités. Sagesse, amour, bon sens. Eh bien, tout cela se développe sous une forme que je n'aime pas. Il y a des trivialités qui me repoussent un peu. J'aime mieux que cela se développe capricieusement et plus vivement, comme chez toi et mon ami. C'est dans cette maison-ci une gaieté perpétuelle, cela m'ennuie. Certes, ils sont plus heureux que nous. Chez toi, j'ai vu des pleurs, des tracasseries pour mon père, des attaques de nerfs pour toi. Eh bien, je nous aime mieux ainsi. Et quand je sens en moi quelque chose qui me soulève, que sais-je, un violent désir de tout embrasser, une peur de ne pas savoir acquérir de l'instruction, des craintes de la vie, ou bien simplement un beau couchant à la fenêtre, à qui le dire? Tu n'es pas là. Et mon ami de cœur non plus. Aussi, qu'est-il arrivé? C'est que je suis pire que je n'étais au collège. Au collège, je m'occupais peu de la classe, mais enfin, je m'occupais. Quand j'ai été renvoyée, cela m'a secouée, je me suis encore un peu occupée chez toi. Maintenant, rien. Rien. Et ce n'est pas une indolence agréable, poétique, non pas, c'est une indolence maussade et niaise. Je n'ai pas osé le dire complètement à mon ami, ni me montrer à lui dans tout mon lait, car il m'eût trouvé trop changé. Il m'a vu en beau. Au collège, je travaillais de temps en temps. Je lisais, je pleurais. Je me mettais quelquefois en colère. Mais au moins, je vivais. Maintenant, point. Aussi bas qu'on peut l'être. Des défauts à foison. Et ce ne sont plus des défauts agréables. Si au moins cette vue pénible me poussait à changer violemment. Mais non. De cet esprit d'activité qui me poussait tantôt vers le bon, tantôt vers le mauvais, il ne reste rien. Rien qu'indolence, maussaderie, ennui.
Et puis après, il s'est fabriqué en quelque sorte, volontairement, je crois, l'image de quelqu'un d'un peu froid, d'un peu sulfureux. Mais je ne suis pas sûr que ça correspond à sa sensibilité profonde. Et j'en suis même d'autant moins sûr que je ne crois pas qu'on pourrait écrire des poèmes d'une telle beauté si on n'était pas, bien sûr, animé d'une grande sensibilité. Alors on va écouter maintenant Yasmine qui interprète pour nous un poème sans titre.
La servante au grand cœur, dont vous étiez jalouse, et qui dort son sommeil sous une humble pelouse, nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Et quand octobre souffle, émondeur les vieux arbres, son vent mélancolique alentour de leurs marbres, certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats, à dormir comme ils font, chaudement dans leurs draps, tandis que dévorés de noires songeries, sans compagnon de lit, sans bonne causerie, vieux squelettes gelés travaillés par le ver, ils sentent s'égoutter les neiges de l'hiver et le siècle coulé, sans qu'amis ni famille remplacent les lambeaux qui pendent à leurs grilles. Lorsque la bûche siffle et chante, si le soir, calme, dans un fauteuil je la voyais s'asseoir, si par une nuit bleue et froide de décembre, je la trouvais tapie dans un coin de la chambre, grave, et venue du fond de son lit, éternel, couver l'enfant grandi de son œil maternel. Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse, voyant tomber des pleurs de ses paupières creuses?
Voilà, c'était donc Yasmine qui interprétait le poème qu'on a coutume d'appeler La servante au grand cœur, bien qu'il n'ait pas de titre, donc bien sûr de Baudelaire et Les fleurs du mal. Et je voudrais maintenant vous faire écouter quelque chose que j'ai découvert. Alors il faut que je vous explique un peu aussi la cuisine que j'ai mise en œuvre pour préparer cette émission. Beaucoup, beaucoup d'amis à qui j'ai signalé que je souhaitais comme ça partager pour le bicentenaire de Baudelaire un certain nombre de poèmes avec les amis qui nous suivent sur Facebook, eh bien, se sont montrés très volontaires. Et donc, depuis 3 jours, je reçois plein de poèmes d'amis à moi qui disent à une voix parfois, plusieurs voix d'autres fois, qui chantent aussi des poèmes. J'ai passé les jours qui précèdent à collecter ces poèmes et puis à les mettre en place pour pouvoir vous les présenter ce soir. Donc vous allez en écouter beaucoup ce soir. Il faut que vous soyez prêts à vraiment explorer l'œuvre de Charles Baudelaire. Mais maintenant, donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet, qui doit dater à peu près de l'époque où mon père faisait des émissions à la télévision et à la radio. C'est un comédien qui s'appelle Charles Denner et qui interprète un poème donc de Baudelaire qui s'appelle « À celle qui est trop gaie ». Alors je dois dire par rapport à ce poème que il exprime quelque chose qui je trouve est très marquant et revient très souvent dans l'œuvre de Baudelaire, c'est cette tension entre la fascination par la beauté et le désir de détruire qui parfois donne le sentiment dans certains de ses poèmes qu'il est vraiment à la limite du sadisme, quoi. Mais c'est un sadisme qui, je crois, était purement imaginaire, qui était en réalité l'expression d'émotion qu'il avait, mais qu'il n'a jamais, bien sûr, réalisé, à part par la construction de la grande œuvre que nous connaissons. Alors on écoute Charles Denner maintenant, qui dit « À celle qui est trop gaie », et vous allez voir, je trouve qu'il le dit merveilleusement bien.
Ta tête, ton geste, ton air sont beaux comme un beau paysage. Le rire joue en ton visage comme un vent frais dans un ciel clair. Le passant chagrin que tu frôles est ébloui par la santé qui jaillit comme une clarté de tes bras et de tes épaules. Les retentissantes couleurs dont tu parsèmes tes toilettes jettent dans l'esprit des poètes l'image d'un ballet de fleurs. Ces robes folles sont l'emblème de ton esprit bariolé, folle dont je suis affolé. Je te hais autant que je t'aime. Quelquefois, dans un beau jardin où je traînais mon atonie, j'ai senti comme une ironie le soleil déchirer mon sein. Et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. Ainsi je voudrais une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les trésors de ta personne, comme un lâche rampé sans bruit, pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné, et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse. Et, vertigineuse douceur, à travers ces lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, d'infuser mon venin, ma sœur.
Voilà, c'était Charles Denner, donc, qui interprétait « À celle qui est trop gaie ». Et comme je vous le disais, c'est un poème particulièrement sombre et qui est interprété merveilleusement. Et je voudrais qu'on change un petit peu de sensibilité, parce qu'il faut essayer d'explorer pendant cette soirée toutes les couleurs de la sensibilité de Baudelaire. Et on va écouter maintenant donc une jeune femme qui est aussi une chanteuse, que j'ai découvert il y a une quinzaine de jours maintenant, dont j'apprécie énormément sa présence, son énergie et la manière qu'elle a d'offrir au monde ce qu'elle a de plus beau et de plus sensible. Et donc, en dehors de chanter, elle s'appelle Estelle Meyer. Si vous voulez chercher sur Internet, vous allez voir des vidéos où elle chante, et c'est vraiment très très bien. Elle est comédienne et elle est chanteuse. Et puis donc, depuis que je la connais, je lui dis, est-ce que tu veux pas m'envoyer, parce que je sais qu'elle adore la poésie, est-ce que tu veux pas m'envoyer un enregistrement de tel ou tel poème? Alors, cette fois-ci, elle m'a envoyé donc, pour Baudelaire, un poème extrait d'une œuvre posthume de Baudelaire. C'est pas un extrait des Fleurs du Mal. Ce sont les fameux petits poèmes en prose, qu'on appelle aussi le spleen de Paris. Et cette œuvre-là, donc au sujet de laquelle il avait écrit une lettre à Théophile Gautier, où il lui expliquait que Théophile Gautier, son grand ami poète, où il lui expliquait qu'il avait cherché, comment dire, à offrir à la prose le rythme et les sonorités intérieures, les rimes intérieures et les harmonies de la poésie. Et il considérait qu'il s'inspirait d'un poète qu'il avait précédé, qui s'appelle Aloysius Bertrand, qui est l'auteur d'un fameux petit livre dont il n'a jamais vu, Aloysius Bertrand n'a jamais vu ce livre-là, parce qu'il a été publié après sa mort, mais il a eu beaucoup d'importance. Aloysius Bertrand fait partie de ces poètes qu'on dit aimé par les poètes. Il est peu connu du public, mais par contre, il est très connu par les poètes qui souvent ont été influencés par son œuvre, et c'est le cas de Baudelaire. Ça s'appelle Gaspard de la Nuit, ce petit livre très précieux. Et c'est en quelque sorte un hommage que fait Baudelaire à Aloysius Bertrand dans la préface, non pas dans la préface, dans la lettre que Baudelaire fait à Théophile Gautier. Et donc, on écoute maintenant Estelle, qui interprète un petit poème en prose extrait du Spleen de Paris, un hémisphère dans une chevelure.
Laisse-moi respirer longtemps. Longtemps. L'odeur de tes cheveux. Y plonger tout mon visage. Comme un homme altéré dans l'eau d'une source. Et les agiter avec ma main. Comme un mouchoir odorant. Pour secouer des souvenirs dans l'air. Tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux. Mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique. Tes cheveux contiennent tout un rêve plein de voilure et de mâture. Ils contiennent de grandes mers dont les moussons me portent vers de charmants climats. Où l'espace est plus bleu et plus profond, où l'atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine. Dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un port fourmillant de chants mélancoliques, d'hommes vigoureux de toutes nations et de navires de toutes formes, découpant leurs architectures fines et compliquées sur un ciel immense, où se prélasse l'éternelle chaleur. Dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les langueurs des longues heures passées sur un divan, dans la chambre d'un beau navire, bercé par le roulis imperceptible du port, entre les pots de fleurs et les gargouillettes rafraîchissantes. Dans l'ardent foyer de ta chevelure, je respire l'odeur du tabac, mêlée à l'opium et au sucre. Dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir l'infini de l'azur tropical. Sur les rivages duvetés de ta chevelure, je m'enivre des odeurs combinées du goudron, du musc et de l'huile de coco. Laisse-moi mordre longtemps tes tresses lourdes et noires. Quand je mordis tes cheveux élastiques et rebelles, il me semble que je mange des souvenirs. Charles Baudelaire, hémisphère dans une chevelure.
On va rester peut-être un petit peu encore dans cet univers, comment dirais-je, exotique, on peut dire. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi par rapport au poème qu'on vient d'entendre, donc un hémisphère dans une chevelure, où tout de suite le thème du départ et le thème aussi des contrées tropicales, exotiques, apparaît. Ce qu'il faut savoir que donc, comme il avait très mal réussi ses études, après il a été à Louis-le-Grand, après il a été à Saint-Louis, mais à chaque fois, en fait, il était un élève assez médiocre, un élève qui était reconnu comme étant très doué et qui aurait des grandes capacités, mais qui décidait de ne rien faire. Et donc son beau-père, le général Opic, l'a envoyé à Calcutta. Il l'a envoyé en voyage en pensant que ça allait peut-être le former. Il a été à Calcutta, puis après il a été aux îles Mascareignes, donc Maurice et La Réunion, et il a pris le goût donc de ces contrées-là. Et même, j'ai entendu dans une émission que j'ai écoutée hier, que quand il était allé là tout jeune comme ça dans ces régions lointaines, eh bien il était tombé amoureux d'une jeune femme, une jeune femme des îles, et sans doute que ça a marqué complètement son imaginaire, parce que c'est évidemment quelque chose qu'on retrouve tout le temps dans son œuvre. D'une part, le désir de ne pas être où il est, le désir de partir voyager, bien sûr, ça c'est vraiment, on a commencé cette émission par l'invitation au voyage. Mais aussi ces contrées, je dirais, qu'on pourrait qualifier de tropicales. Voilà, on va écouter maintenant Yann Banny, qui nous donne la version de l'invitation au voyage, mais l'invitation au voyage dans les petits poèmes en prose. Yann Banny est un ami de longue date et dont le père disait déjà des poèmes au Club des Poètes avant que lui-même ne vienne en dire. On l'écoute.
Il est un pays superbe. Un pays de cocagne, dit-on, que je rêve de visiter avec une vieille amie. Pays singulier, noyé dans les brumes de notre nord et qu'on pourrait appeler l'Orient de l'Occident, la Chine de l'Europe. Tant la chaude et capricieuse fantaisie s'y est donnée carrière, tant elle l'a patiemment et opiniâtrement illustré de ses savantes et délicates végétations. Un vrai pays de cocagne, où tout est beau, riche, tranquille et honnête. Où le luxe a plaisir à se mirer dans l'ordre, où la vie est grasse et douce à respirer. D'où le désordre, la turbulence et l'imprévu sont exclus, où le bonheur est marié au silence, où la cuisine elle-même est poétique, grasse et excitante à la fois, où tout vous ressemble, mon cher ange. Tu connais cette maladie fiévreuse qui s'empare de nous dans les froides misères, cette nostalgie du pays qu'on ignore, cette angoisse de la curiosité. Il est une contrée qui te ressemble, où tout est beau, riche, tranquille et honnête. Où la fantaisie a bâti et décoré une Chine occidentale, où la vie est douce à respirer, où le bonheur est marié au silence. C'est là qu'il faut aller vivre, c'est là qu'il faut aller mourir. Oui, c'est là qu'il faut aller respirer, rêver et allonger les heures par l'infini des sensations. Un musicien écrit l'invitation à la valse. Quel est celui qui composera l'invitation au voyage qu'on puisse offrir à la femme aimée, à la sœur d'élection? Oui, c'est dans cette atmosphère qu'il ferait bon vivre, là-bas où les heures plus lentes contiennent plus de pensées, où les horloges sonnent le bonheur avec une plus profonde et plus significative solennité. Sur des panneaux luisants ou sur des cuirs dorés et d'une richesse sombre, vivent discrètement des peintures béates, calmes, et profondes comme l'âme des artistes qui les créèrent. Les soleils couchants qui colorent si richement la salle à manger ou le salon sont tamisés par de belles étoffes ou par ces hautes fenêtres ouvragées que le plomb divise en nombreux compartiments. Les meubles sont vastes, curieux, bizarres, armés de serrures et de secrets comme des âmes raffinées. Les miroirs, les métaux, les étoffes, l'orfèvrerie et la faïence y jouent pour les yeux une symphonie muette et mystérieuse. Et de toutes choses, de tous les coins, des fissures, des tiroirs et des plis des étoffes, s'échappe un parfum singulier, un revenez-y de Sumatra, qui est comme l'âme de l'appartement. Un vrai pays de cocagne, où tout est beau, riche, propre et luisant, comme une belle conscience, comme une magnifique batterie de cuisine, comme une splendide orfèvrerie, comme une bijouterie bariolée. Les trésors du monde y affluent comme dans la maison d'un homme laborieux et qui a bien mérité du monde entier. Pays singulier, supérieur aux autres, comme l'art l'est à la nature, où celle-ci est réformée par le rêve, où elle est corrigée, embellie, refondue. Qu'ils cherchent encore, qu'ils reculent sans cesse les limites de leur bonheur, ces alchimistes de l'horticulture. Qu'ils proposent des prix de 60 et de 100 000 florins pour qui résoudra leur ambitieux problème. Moi, j'ai trouvé ma tulipe noire et mon dahlia bleu. Fleur incomparable, tulipe retrouvée, allégorique dahlia. C'est là, n'est-ce pas, dans ce beau pays si calme et si rêveur qu'il faudrait aller vivre et fleurir. Ne serais-tu pas encadré dans ton analogie et ne pourrais-tu pas te mirer pour parler comme les mystiques dans ta propre correspondance? Des rêves, toujours des rêves. Et plus l'âme est ambitieuse et délicate, plus les rêves l'éloignent du possible. Chaque homme porte en lui sa dose d'opium naturel, incessamment sécrétée et renouvelée. Et de la naissance à la mort, combien comptons-nous de remplis par la jouissance positive, par l'action réussie et décidée? Vivrons-nous jamais, passerons-nous jamais dans ce tableau qu'a peint mon esprit, ce tableau qui te ressemble? Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet or, ces parfums, ces fleurs miraculeuses, c'est toi. C'est encore toi, ces grands fleuves et ces canaux tranquilles. Ces énormes navires qu'ils charrient, tout chargés de richesses et d'où montent les chants monotones de la manœuvre, ce sont mes pensées qui dorment, qui roulent sur ton sein. Tu les conduis doucement vers la mer qui est l'infini tout en réfléchissant les profondeurs du ciel dans la limpidité de ta belle âme. Et quand, fatigués par la houle et gorgés des produits de l'Orient, ils rentrent au port natal, ce sont encore mes pensées enrichies qui reviennent de l'infini vers toi.
C'était Et vive la poésie, l'émission hebdomadaire du Club des poètes, Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Renais.
Bonsoir amis, bonsoir. Qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi tout de suite comme on écrit à un ami et nous serons peut-être un peu moins seuls. Bonsoir, à la semaine prochaine et vive la poésie.